Nous allons vous présenter une pièce de théâtre, écrite par Pierre Amard. Cette pièce s'intitule « Charles de Foucault, prince du désert ». Scène 1, prologue, dispute familiale.
La scène se passe dans une maison familiale. Frères et sœurs jouent ensemble, avec des caplas, un circuit de voiture et une maison de poupées.
Moins fort, Antoine, tu nous gênes.
Antoine hésite, puis se lève soudainement et tire les cheveux de sa sœur.
Tiens, Chippy, va voir ta mère!
Sophie s'en va en criant.
Maman, maman!
Surgit la mère, tenant la sœur par la main.
Antoine, viens voir ici, demande pardon.
Pardon.
Pardon qui?
Pardon Sophie.
Je te préviens, je te pardonne, mais je n'oublie pas.
Quelle ambiance ce soir! Allez, tout le monde au travail, sortez les devoirs pour lundi. Ça va vous calmer. Antoine, dis-moi, tu n'as pas un carnet de notes à me faire signer?
Les enfants attrapent leur cartable et vont s'asseoir autour de la table. Antoine tend son carnet.
Merci. Voyons voir. Ah, en français, la maîtresse écrit « n'a jamais ses crayons, n'a jamais ses cahiers, n'a jamais ses livres, mais à des circonstances atténuantes, n'a jamais son cartable. » Bravo. En mathématiques, maintenant. Mais quand donc Antoine comprendra-t-il qu'il est noté sur 20 et pas sur 10?
Et c'est parti pour le redoublement.
Alors toi, hein? Ça va.
Camille, laisse ton frère tranquille. Et toi, ouvre tes cahiers.
Les enfants étudient dans le silence. La mère soupire.
Oui, je sais. Tu t'es dit que c'est pas gagné, hein? Je suis un enfant terrible, c'est ça?
Mais non, il n'y a pas d'enfant terrible. Disons juste que tu es un peu turbulent.
Et tu aimerais bien avoir un petit garçon parfait, irréprochable, c'est ça? Une sorte de Jésus bis?
Mais oui, tu sais, comme dans la vie qu'on nous lisait au réfectoire des moines cet été. Tu te souviens?
Si, je m'en souviens, bien sûr. Encore une idée de papa. 48 heures chez les moines, ça vous dépaysera, il disait.
Ne dites pas ça. Moi, j'ai trouvé ce séjour très reposant. Rien à organiser, pas de repas à préparer.
Ah oui, les repas. Tiens, parlons-en. Chou-fleur le matin, chou-fleur à midi.
Et le soir,
devinez quoi?
Gratin de chou-fleur.
Mais le pire, c'était quand même la lecture. Tu te souviens, Sophie?
Ah oui, règle de notre bienheureux père Saint-Benoît.
Non, pas celle-là, l'autre.
Celle sur la vie de ce petit garçon mort à l'âge de 12 ans? Oh, je n'ai pas très bien écouté.
Eh bien moi, j'ai tout entendu. Le jour de sa première communion, on ne le retrouve plus. Après plus de 3 heures de recherche, la gouvernante le découvre à la chapelle qu'il n'avait pas quittée depuis la Sainte Messe.
Amen.
Le vendredi saint, alors qu'il n'a que 4 ans, il demande à sa mère l'immense faveur de pouvoir suivre avec elle le chemin de la croix et de jeûner au pain et à l'eau.
Riez, riez. N'empêche que ce petit garçon est au ciel maintenant.
Oui, mais alors, justement, tous ces petits saints avant l'heure qui triomphent de toutes les tentations, qui naissent les mains jointes, la tête inclinée à 9:50 et le regard tourné vers le ciel, moi, c'est pas mon truc. Tu n'avais qu'à être la mère de ce petit garçon-là, tout mignon, tout parfait, parti tout droit au ciel.
Parce que toi, tu n'as pas envie d'être saint, d'aller au ciel?
Si, aller au ciel, je veux bien, mais être saint, ça, jamais!
Là, il va y avoir un petit problème.
Mais il y a d'autres formes de sainteté. Voyons voir... Saint Paul?
Super! Il se fait couper la tête, et comme j'ai envie de garder la mienne...
Alors, Thérèse de l'Enfant Jésus?
Ah oui, on m'a raconté sa vie, Eucaté. À 15 ans, elle est à Rome. Tu sais pourquoi? Même pas pour manger des glaces. Ça, c'est trop commun, trop ordinaire. Non, elle va à Rome pour supplier le pape d'entrer au Carmel. À 15 ans, l'âge où tu mettras tes premières boucles d'oreilles.
Attends, j'en ai un autre. Saint Augustin.
Un évêque. Facile. Toujours branché sur Dieu.
Eh bien, justement, pas au début de sa vie. Il allait au jeu du cirque, faisait de grandes fêtes avec ses amis. On y mangeait et buvait à volonté. Sans parler de toutes ses aventures avec des femmes. Tiens, il aurait même un enfant.
Ah, c'est déjà mieux. Et tu me jures qu'il est saint?
Promis juré. Il est même docteur de l'église.
À la bonne heure! Mais bon, moi, les jeux du cirque, les orgies, je ne me sens pas trop concernée. Non, donne-moi un saint moderne, avec des péchés gros comme ça, un gros feignant, et je te préviens, pas un polonais ou un italien. Ceux-là naissent avec des prédispositions. Je veux, voyons voir, un français, pas évêque, pauvre et ordinaire, mort il y a moins de 100 ans, un siècle, d'accord?
J'ai trouvé, Charles de Foucault, mort en 1916, ça te va?
Il a fait des péchés comme ça?
Et même gros comme ça. Tiens, regarde ce qu'écrivaient de lui ses professeurs. A de la distinction, a été bien élevé, mais a la tête légère et ne pense qu'à s'amuser.
Hé, ça m'intéresse. Et il est devenu saint ?
Juste bien heureux, mais c'est tout comme. Allez, assieds-toi. Ce soir, rien que pour toi, du rare et de l'inédit, la vie d'un prince du désert.
Prince du désert ? Mais tu m'as juré que c'était un type pauvre et ordinaire !
Mais oui, attends ! Prince du désert, c'est une expression. Ça n'a rien à voir avec Aladdin ou Laurence d'Arabie, tu verras.
Bon, alors vas-y, raconte ! Je veux tout savoir !
Scène 2, avance rapide. Nous sommes dans le jardin d'une belle propriété. Au loin, la forêt normande. Marie, la cousine de Charles, fait de la broderie. Charles, dans un coin, boude en silence.
Tu sais, Charles, tu peux bouder toute l'après-midi si tu veux, mais cela ne changera rien. Je trouve que ce que tu as fait est stupide.
J'irai voir ta tête, toi, si on te saccageait ta broderie.
Ça n'est pas tout à fait pareil. Je fais la différence entre le vandalisme et la moquerie. Celui qui a placé des pommes de terre dans ton beau fortin voulait rire un peu. Ce n'était pas la peine de tout démolir et de te rouler par terre.
Eh bien moi, je ne ris pas et je me vengerai.
Ah oui, comment ?
Une sorte d'expédition punitive, tu verras bien.
Mais Charles, je croyais qu'il n'y avait aucun secret entre nous.
Oui, je sais. Mais là, c'est la guerre et ce soir, je lance une contre-offensive surprise.
Je n'aime pas quand tu as ce regard noir. Allons, oublie tout ça et sors ton livre d'images. Nous allons le regarder.
Non, je n'ai pas la tête à ça.
Il s'approche de Marie et fouille sa boîte à couture. Il en sort un ruban qu'il tente de subtiliser. Marie lui court après.
Hé, hey, rends-moi ça, ne touche pas à mes affaires.
C'est bon, tiens, le voilà ton ruban, je n'ai rien cassé.
J'espère bien, mais puisque tu as envie de bouger, va donc courir dans le parc. Allez, oust, du balai.
Charles part en courant. Marie le regarde partir, amusée, et reprend sa broderie en chantonnant. Entre alors le grand-père.
Alors, monsieur mon petit-fils s'est calmé ?
Pas complètement, grand-père. Il est parti courir dans le parc. Mais ne vous inquiétez pas, il sera de retour pour le dîner. Et peut-être même pour le goûter.
C'est vrai qu'il y a au moins une certitude avec Charles. Il ne manque aucun repas. Quel appétit !
Appétit, je pencherai plutôt pour de la gourmandise.
Bah, laissons quelques plaisirs à cet enfant. Il a perdu ses parents à l'âge de 6 ans.
Bien sûr. Mais cela n'excuse pas tout.
Que veux-tu dire, Marie ?
Je pense que, orphelin ou pas, Charles reste un garçon comme les autres, avec ses caprices, ses colères, ça paraît à l'école. Il me semble qu'un peu plus de rigueur, il en remarque par-ci ou par-là.
Peut-être, mais je suis si fatiguée. On n'élève pas des enfants quand on a mon âge.
Allons, grand-père, je suis là, et vous savez que Charles m'écoute.
Il faut reconnaître qu'entre vous deux, il y a quelque chose. Sais-tu ce qu'il m'a dit hier à la promenade ? Si le bonheur avait un prénom, il s'appellerait Marie.
C'est beau, mais cela ne remplacera jamais une mère.
Stop, arrêtez tout, ça suffit, pause, hep, en régie, arrêtez tout !
Mais Antoine, que se passe-t-il ?
Il se passe que je commence à m'ennuyer, moi, et violemment. C'est pas bientôt fini ? Toutes ces petites histoires bien mignonnes. Tiens, ils n'osent pas te le dire, tous ces gens. Mais on se croirait dans un livre de la comtesse de Ségur. Tout y est. Le beau château, le petit orphelin, le colonel à la retraite, ce n'est vraiment pas très original. Camille, tu m'avais promis du rare et de l'inédit.
Bien sûr, mais il faut bien commencer par le début.
Oui, alors, on va faire avance rapide maintenant. Parce que le petit orphelin dans son beau château, moi...
D'accord, d'accord, avance rapide. On va prendre un raccourci, regarde. Tu as compris que Charles avait perdu ses parents, n'est-ce pas ? Le voici avec sa mère. Elle meurt 2 ans après cette photo. Note bien cette moue et ce regard désabusé, il le gardera longtemps. Ici, sur cette photo, à l'adolescence.
Toujours la même moue.
Oui, tiens, là, c'est une photo de son lycée, à Nancy.
Je parie qu'il est le premier de sa classe.
Même pas. Il est petit, gras, maladroit et moyen dans quasiment toutes les matières. Ah si, une bonne surprise. Il est admis à Saint-Cyr dans un rang assez honorable, 82e sur 412. J'imagine qu'un reste de fierté et d'orgueil l'aurait fouetté le jour de l'examen.
Bon, mais il va à la messe tous les matins, dit son rosaire, fait collection d'images pieuses.
Penses-tu ? Tu es loin du compte. Cela fait longtemps qu'il ne prie plus. La religion chrétienne, un Dieu en 3 personnes dont l'une s'incarne et meurt par amour pour les pécheurs, tout ça, ce n'est plus pour lui. Et puis, des choses ont changé.
Quoi donc ?
Charles est majeur. Il peut donc profiter de sa fortune. Il est riche, immensément riche. Une fortune princière. On a estimé ses rentes à 700 000 livres.
Je ne vois pas encore le désert, mais j'ai trouvé le prince. 700 000 livres, ça fait combien en euros ?
Je ne sais pas. Ça fait beaucoup. Et tu imagines tout ce que peut faire un jeune homme sans morale, paresseux et richissime, portant un bel uniforme. Donc, avance rapide.
Elle touche la télécommande, l'écran s'éteint brutalement.
Hop hop hop, pas si vite! C'est que ça m'intéresse, moi! Et ces gens-là aussi!
Il est hors de question de donner de mauvaises idées à qui que ce soit. Allez, allez, avance rapide.
Elle veut appuyer sur la télécommande, mais Antoine cherche à la lui prendre. Empoignade, la télécommande tombe. Antoine la ramasse rapidement.
Raté! Maintenant, c'est moi qui commande!
Il appuie, mais rien ne se passe.
C'est malin, tu as tout cassé.
Mais non! Regarde! C'est formidable! Cette fois-ci, c'est en relief!
Une fumée sort des coulisses. Des personnages apparaissent pendant que les rideaux tombent.
Tiens! Un militaire? Mais qui êtes-vous, monsieur?
Un peu de respect, mon garçon. Je suis le général et je commande l'école spéciale militaire de Saint-Cyr.
Mais respect, mon général!
Et moi, je suis le colonel. Repos, petit.
Ils disparaissent tous les deux. On entend des cris et des clameurs au loin. Vallombrosa tient une bouteille de champagne à la main.
Moi, je suis Antoine de Vallombrosa, le meilleur ami de Charles de Foucault.
Ah, mais justement, et Charles, où est-il?
Il est aux arrêts, la 5e punition de la semaine. Le temps de faire le mur et il nous rejoint.
Que la fête commence!
Scène 3, l'épicurien triste. Charles de Foucault apparaît en gandoure à blanche frappée du cœur de Jésus.
Avant d'aller plus loin, je voudrais vous dire quelques mots. Oui, j'ai fait tout ça. À Saint-Cyr d'abord, mais surtout à Saumur, puis à Pont-à-Mousson. J'ai vécu comme on peut vivre lorsque la dernière étincelle de foi est éteinte. Vous savez, depuis que je suis enfant, l'histoire est toujours la même. Quand le désir m'habite, je n'y résiste pas. Il me faut tout, tout de suite, et complètement. Au fil des années, voilà ce que je suis devenue. L'esclave de mes passions, et pire encore, l'esclave triste et fatigué avant l'heure. Alors, du plus profond de mon cœur, je vous supplie de regarder la suite avec beaucoup de compassion.
Il se trouve à l'intérieur d'un salon élégant. Ça et là, des bouteilles vides, des bougies éteintes, des assiettes sales, des restes d'un grand buffet. La gouvernante fait le service. Vallombrosa, un verre à la main, est allongé dans un canapé.
Mes amis, mangeons et buvons, car demain, nous mourrons.
Et Foucault qui n'est pas encore là! Mais que fait-il?
Je te rappelle qu'il est normalement aux arrêts et que cette fête qu'il a organisée devait normalement se tenir sans lui.
Je l'aime bien, ce Foucault. Il a raison, finalement. Il n'y a qu'une question importante, que dis-je, fondamentale dans la vie. Est-ce l'heure de boire ou de manger?
Tiens, vous connaissez la dernière?
Non, raconte.
C'est à propos de l'aumônier. Figurez-vous qu'hier, lors de la messe de promotion, il nous a confié qu'il priait tous les jours, pour que nous soyons les saints de demain. Un saint parmi nous, la bonne blague!
Il est tordant, cet aumônier. À mon avis, il s'est trompé de lieu. Ici, ce n'est pas un couvent ou un monastère.
Ne souris pas trop vite, on ne sait jamais. Un saint, cela pourrait être toi, qui sait?
À moi, certainement pas. J'ai déjà santé millions.
Il lève son verre.
Allez voir, Marguerite! C'est sûrement Foucault! Il va être furieux! Nous avons fini tout le champagne!
Monsieur, monsieur de Vallombrosa?
Qui y est-il?
Monsieur de Vallombrosa, il y a à la porte un monsieur, enfin un mendiant, qui souhaite entrer. Je lui ai dit de passer son chemin, mais il insiste.
Enfin, Marguerite, faites quelque chose. Au besoin, appelez les gendarmes, s'il le faut.
C'est que, justement, les gendarmes sont avec lui. C'est à rien y comprendre. Le monsieur, enfin le mendiant, jure qu'il habite ici, qu'il vient chercher des affaires. Les gendarmes s'impatientent. Je suis terriblement gênée. Monsieur, ne voudrait-il pas venir avec moi?
Faites donc entrer tout ce beau monde. Marguerite, je vais m'en occuper.
Un mendiant. Remarquez, s'il a faim, il reste encore un peu de foie gras.
Les gendarmes entrent, accompagnés de Charles de Foucault.
Alors, on ne reconnaît plus ses petits camarades?
Charles, ça alors! Mais cette tenue, les gendarmes!
Vous reconnaissez cet individu, monsieur?
Bien sûr, vous êtes ici chez lui. Monsieur est le vicomte de Foucault. C'est bon, je m'en porte garant, et vous pouvez disposer.
L'autre gendarme lui enlève ses menottes.
Et monsieur le vicomte croit que nous n'avons pas déjà assez à faire que de surveiller les véritables vagabonds.
Allons, mettez-vous dans le vestibule, je ne serai pas long. Deux ou trois affaires à prendre. Me changer, c'est l'affaire de 2 minutes.
Les gendarmes disparaissent. Charles s'avance vers la table et se sert en silence au buffet.
Alors?
Alors quoi?
Tu essaies une nouvelle tenue pour le bal costumé?
Charles hausse les épaules et ne dit rien.
Nous pourrions peut-être avoir une explication, si monsieur le vicomte daignait nous répondre.
Je n'ai rien à dire, je voulais juste partir, voir autre chose. J'en ai assez de ces casernes qui se ressemblent toutes. Je voulais connaître l'odeur de la paille et du crottin. C'est tout. Ça m'a pris d'un coup.
Et les gendarmes ?
Oh ! Ils m'ont arrêté sur la route, m'ont réclamé mes papiers et me considèrent comme un déserteur.
Tu vas passer devant le colonel ? Voyons voir. Je pronostique entre 10 et 15 jours d'arrêt.
Un peu plus ou un peu moins. Mais avouez que cet équipé dénote un peu de vos petites exigences conformistes.
Pour sûr, c'est très original. 15 jours aux arrêts d'un coup, c'est très fort.
Avec tout ce qu'on t'a déjà infligé, tu vas gagner haut la main. Le concours du plus grand puni de l'histoire militaire, félicitations.
Cela ne va pas. Un chagrin d'amour, une histoire de famille. Je peux t'aider, tu sais.
Non, rien de tout ça. Je m'ennuie, tu peux comprendre ?
Quoi ? C'est toi qui dis ça ?
Oui, je m'ennuie infiniment. La fête m'ennuie, les gens m'ennuient, tout m'ennuie. Je n'arrête pas de m'ennuyer, la vie est stupide. Stupide !
Je connaissais Foucault le fêtard, mais pas Foucault le cafardeux, romantique. Allons, bois quelque chose, cela va passer.
Merci. De toute façon, je ne peux pas rester. Les gendarmes m'attendent. Allez, amusez-vous bien et à bientôt !
Ils les quittent. Tout le monde disparaît. On retrouve le général et le colonel en grande discussion, tandis qu'une fanfare militaire retentit. Le général observe à la longue vue des troupes qui manœuvrent au loin. Une ordonnance tient un drapeau.
Magnifique, cette manœuvre en tenaille n'aurait pas déplu à Napoléon en lui-même. Alors, colonel, qu'en pensez-vous ?
Je partage votre avis, mon général. Voilà la preuve que nos élèves n'ont pas perdu leur temps.
Tiens, regardez le peloton sur le flanc droit et commandé par un simple brigadier. Étrange, vous manquez d'officiers, colonel ?
Attendez un peu. Ah, mais bien sûr, c'est le peloton du lieutenant de Foucault.
Et il ne s'est pas présenté à l'exercice ? Vous trouvez cela normal ?
Normal ? Oui, mon général, c'est normal. Tenez, je vais vous dire ce que je pense de Foucault, mon général. C'est un homme désespérant. Il a une mémoire prodigieuse, mais il ne pense qu'à s'amuser et ne fait que ce qu'il veut. Je lui ai collé 15 jours d'arrêt. J'ai même fait un total. En un an de présence ici, il a été puni 45 fois et a fait objet de 70 jours de consigne.
C'est un jeu pour ébattre la galerie, mais l'homme au fond de son cœur, que vaut-il ?
Il est plein de morgue et de suffisance. Savez-vous que monsieur refuse de se déranger pour venir toucher sa solde ?
Peu importe, son séjour parmi nous touche à sa fin. Dans quelque temps, ce sera pour lui la vie de garnison. Espérons qu'au contact des hommes, il se révélera.
Camille revient avec son frère.
Ne pense qu'à s'amuser.
C'est tout à fait ça. Mais au fond du cœur, un vide immense que rien ni personne ne parvient à combler. Alors, c'est la fuite en avant. Il multiplie les réceptions.
Mais le général n'a-t-il pas raison de dire qu'une fois dans un régiment, au contact des hommes, Charles ne sera plus le même ?
Penses-tu, dans une caserne en temps de paix, à part un peu d'exercice et une inspection de temps à autre, les officiers ont peu d'obligations. Charles est envoyé à Pont-à-Mousson, et il n'a de cesse que de faire la fête, la vraie fête, celle qui illumine, transfigure et catalyse pour quelques heures tout ce qu'il y a d'audace et d'imagination en lui. Mais la fête où se mêle aussi le luxe, volupté et licence jusqu'aux frontières du scandale.
Ce sont des mots bien compliqués. Mais je crois comprendre l'essentiel. Cela se passe un peu comme cet Augustin, celui dont tu me parlais au début.
Oui, c'est pareil, sauf que...
Quoi ?
Sauf qu'Augustin avait une mère, Sainte Monique, qui pleurait et priait pour lui pendant ce temps-là. On devrait d'ailleurs canoniser toutes les mères de saints.
Je comprends. Évidemment, dans ce cas-là, la sainteté pour Charles de Foucault, c'est pas gagné-gagné.
Oui, mais il reste quand même cette tristesse du soir. Lorsque Charles se retrouve seul dans son appartement, il est envahi par le dégoût et l'ennui. Viens, je vais te lire des extraits de son journal.
On entend la voix de Charles.
Vous m'avez fait sentir, Seigneur, un vide douloureux, une tristesse jamais éprouvée. Elle me tenait muet et accablée le soir des fêtes. Je m'étais organisé, mais le moment venu, je l'ai passé dans un mutisme, un dégoût et un ennui infini. vous me donniez cette inquiétude vague d'une conscience mauvaise, tout endormie, mais pas tout à fait morte.
Scène 4, l'appel du désert. Toujours devant le rideau, apparaît Antoine qui s'adresse au public.
Bon, ça y est, elle m'a tout lu. J'ai compris, c'est possible d'être saint. C'est même facile, suffit de vouloir. Vous pouvez rentrer chez vous, le spectacle est fini. Allez, tout le monde dehors. Ma sœur avait raison, on peut devenir un grand saint en ayant commencé à vivre comme un patachon. Vous pouvez partir, allez, au revoir, hein. Et bon retour chez vous, allumez les lumières.
Vous voilà de retour ? Bravo. Donc, nous y sommes. Vous voyez, la vie de Charles de Foucault ressemble à un long itinéraire qui le conduit de l'ensablement à la lumière. Il semble même que tout commence alors que Charles semble fini, enfermé dans son orgueil et son égoïsme. D'ailleurs, entre nous, l'orgueil et l'égoïsme, ce sont un peu des péchés d'homme. Nous, les femmes, on est plus raffinées. Jalousie, médisance, calomnie. Bon, mais je parle et je m'égare. Je vous fais un petit résumé, sinon vous n'arriverez pas à suivre. Ingérable, têtu, notre héros s'est fait renvoyer de l'armée. Et c'est au cours d'une vie bien dissolue d'officier en disgrâce que le sens du devoir va le réveiller brutalement.
Charles de Foucault, assis dans un fauteuil, lit le journal. Mimi, sa compagne du moment, lui répond.
Incroyable, incroyable !
Que se passe-t-il ?
Mon ancien régiment est en difficulté. Un escadron a essuyé des tirs lors d'une embuscade en Tunisie. Il y a plusieurs morts.
Tu vois, tu l'as échappé belle. Ce n'est pas ici, à Évian, que tu risques de te faire tirer dessus.
Justement, ici je m'ennuie à mourir. Je dois aller rejoindre mes camarades.
Il se lève soudainement.
Tu ne vas pas partir comme ça. Tu as déjà été renvoyé à cause de moi. Et tu crois qu'ils te reprendront aussi facilement ?
Je ne peux pas rester enseveli entre deux draps de lit et un tapis de jeu pendant que mes camarades seront tirés dessus comme des lapins. Je me présenterai comme simple soldat.
Et moi ?
Mais je ne t'emmène pas, cette fois-ci, c'est au combat que je pars.
C'est ainsi que Charles de Foucault découvre le désert et ceux qui le peuplent. Un monde hostile et silencieux que seuls viennent troubler les tempêtes de sable et le bruit des combats.
Surgit Charles en officier à la tête d'une escouade.
Prenez 4 hommes avec vous et suivez ces rebelles jusqu'à la vallée. Assurez-vous qu'ils soient hors de combat et regroupez les prisonniers près de la tente.
Voilà une opération rondement menée, mon lieutenant. Nous avons 12 prisonniers et 2 blessés. L'un des nôtres a malheureusement été frappé par une balle perdue.
C'est un mort de trop, mais restons sur nos gardes. Je ne crois pas qu'il soit très loin.
Il contemple, méditatif, le paysage.
La guerre, toujours la guerre. Elle a ce génie de fabriquer les épopées et de faire l'histoire. Mais le fracas des canons et le sifflement des balles ne suffisent plus à Charles de Foucault. Le jeune homme est en train de changer. Hier, c'était un officier et n'ayant qu'une frayeur, celle de s'ennuyer. Aujourd'hui, c'est un rêveur saisi d'admiration par l'Orient. Sur sa table, s'entassent les livres et les cartes. L'opium du désert l'a saisi, pris tout entier et il ne s'en défend pas.
Face au bureau du général, Charles présente sa démission et argumente.
Je ne comprends absolument pas, Foucault. Les hommes vous apprécient, vous faites un parfait officier et l'armée sera prête à passer sur toutes vos légèretés, y compris cette femme vulgaire que vous preniez jadis un peu partout.
Mon général, je ne me sens plus à ma place. Je vous continue à servir les intérêts de la France, autrement. Laissez-moi connaître ce pays plus profondément.
S'il s'agit de votre démission, je ne peux pas la refuser. Soit. Mais l'armée et votre régiment perdent un officier de valeur. Pour moi, c'est une trouvaille de plus pour vous à faire remarquer.
Détrompez-vous, je pars explorer le Maroc. Dans un an, tout au plus, les cartes que j'aurai dessinées serviront à nos troupes.
Allons, des cartes du Maroc, l'état-major en a déjà. Je les ai vues.
Oui, mon général, 2 cartes, 2 pauvres petites cartes pratiquement inutilisables et qui ne dessinent que la côte.
Et comment comptez-vous entrer dans ce pays ? Il est interdit d'accès, sous peine de mort, aux roumis, aux blancs.
En juif, mon général, déguisé en juif de Smyr. J'ai déjà un compagnon nommé Mardoché.
En juif, vous êtes fou, mais je ne peux rien faire.
Il se quitte. Scène 5, chercheur de Dieu. Charles de Foucault, habillé en djellaba, marche en compagnie de Mardoché qui lui dit
« Je suis vraiment content de vos progrès en hébreu. Mais que de risques ! J'ai bien cru qu'hier soir, nous allions être démasqués. Mais qu'est-ce qui vous a pris de sortir cette boussole lors de la halte ?»
Allons, je l'ai caché sous un pli de mon turban. N'aie pas peur.
J'aimerais bien vous y voir, moi. Je passe mes journées à mentir, à dire que vous êtes un pieux rabbin de Moscovie, toujours perdu dans ses méditations. Vous croyez que c'est facile, vous ?
Tu es trop inquiet. Qui donc s'intéressera à un misérable petit juif ?
Soyez prudent. Notre vie dépend de votre discrétion. Imaginez ce qui arriverait si on découvrait que vous étiez le vicomte de Foucault, officier de l'armée française. Ah ! Par le Seigneur Tout-Puissant, c'est la mort assurée.
Impossible, je suis le Rabbi Joseph allemand, en route pour une tournée d'aumône.
Et vous comptez sur moi pour donner le change, c'est cela ?
Mais tout à fait, Mardoché, regarde, je suis comblé. Ce pays est magnifique, quelle joie d'observer ses coutumes et ses modes de vie. Nous avons tant à apprendre.
On entend le chant du muezzin. Des Marocains surgissent et se tournent vers l'Est, posent leurs instruments, étendent leurs tapis et commencent à prier.
Regarde-les, on dirait qu'ils ne font qu'un durant la prière, tout absorbé par la récitation fidèle des 99 noms d'Allah, tellement imperturbable, tellement petit, tellement obéissant.
Tellement soumis, trop peut-être. Ne savent-ils pas que Dieu est amour ?
Et toi, tu pries souvent, Mardoché ?
Tous les jours, monsieur. Tous les jours, j'invoque l'Éternel, le Dieu tout-puissant et trois fois saint. Et vous, vous êtes croyant ?
Je ne sais pas. Oui, enfin, non. Bref, va donc sur la colline là-bas et surveille les environs. Je vais faire un relevé topographique.
Mardoché se retire, laissant Charles sous la lumière. Il étend le bras vers le ciel et tombe à genoux, désespéré.
Mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse.
Ce cri sera entendu. De retour du Maroc, comblé d'honneur après cette exploration un peu folle, Charles de Foucault arpente les rues de Paris. À la fin du mois d'octobre 1886, il entre dans l'église Saint-Augustin et demande à l'abbé Huvelin une instruction religieuse. Ce dernier le force à se confesser. Comme Saul à Damas, Charles est saisi par le Christ. Il le sera à tout jamais.
Charles est toujours à genoux, sans bouger. L'abbé Huvelin arrive à ses côtés, reste quelques instants assis, écoute la confession, puis se lève et le bénit.
Je vous pardonne de tous vos péchés.
Amen.
Il y a quelques instants, vous rentriez comme un païen, vous ressortez chrétien, rendons grâce à Dieu.
Et maintenant, que vais-je faire ?
Eh bien, communier, recevoir le corps du Christ.
Mais je ne suis pas digne !
C'est encore mieux comme ça. Le Christ est venu pour les malades et les pauvres, pas pour les riches, ni les bien portants.
J'ai perdu mon cœur pour ce Jésus de Nazareth crucifié il y a 1900 ans. Et je veux passer ma vie à l'imiter autant que le peut ma faiblesse. L'imitation est inséparable de l'amour. Vous le savez bien. Quand on aime, on veut imiter.
Pas si vite, mon ami. Pour imiter, il faut connaître. Allez donc en terre sainte visiter les lieux saints.
Jérusalem, Bethléem, Nazareth.
Le lac de Tibériade, le mont Tabor. Les lieux où Jésus est passé il y a 2000 ans.
Combien de temps faut-il que je passe là-bas ?
2 mois me paraît un minimum, voyage compris.
Parfait, alors je pars 3 mois. Au revoir, monsieur l'abbé !
L'abbaye disparaît lentement, puis Charles se lève et commence à marcher en égrenant son chapelet.
Dès que j'ai su qu'il y avait un Dieu, j'ai compris que je ne pouvais que le servir jusqu'au bout. Après mon pèlerinage en Terre Sainte, je voulais crier l'Évangile par toute ma vie. J'entre dans l'ordre des trappistes les plus durs de l'époque. Trop confortable. Alors on m'envoie au monastère le plus pauvre, celui d'Agbès en Syrie. Trop confortable encore. Vous comprenez, je ne peux pas traverser la vie en première classe pendant que celui que j'aime la traverse dans la dernière. Oui, je sais, vous me trouvez excessif, n'est-ce pas ? Vous avez peut-être raison. Alors je pars à Nazareth pour y être l'homme à tout faire, des religieuses claristes. C'est là que j'entends pour toujours l'appel du désert.
Il disparaît. Deux religieuses clarisses entrent. Alors, sœur Marie-des-Neiges, comment va notre nouveau jardinier ?
Oh, ma sœur, c'est un vrai saint. Les pauvres se précipitent chez lui, il leur distribue presque toute sa nourriture.
Est-il bien logé au moins ? Lui avez-vous montré comment s'installer au mieux dans sa cellule ?
Pensez-vous, il n'en a pas voulu et m'a demandé la permission de s'installer dans la cabane du potager.
La cabane à outils ? Mais elle est minuscule !
Je sais bien, mais il m'a dit qu'il cherchait la simplicité, alors je n'ai pas insisté. Il mène une vie digne d'un ermite du désert.
Cet homme est vraiment étrange. Savez-vous ce qu'il a dit à sœur Dominique hier, lorsqu'elle lui a apporté ces bruits qui circulent sur son identité ?
Les rumeurs qui le présentent comme un ancien vicomte, richissime et seul ?
Exactement. Eh bien, il a souri négligemment et s'est éloigné en disant « Je suis un vieux soldat ». Bon, et comme jardinier, que vaut-il ?
Vous savez, il est beaucoup plus à la chapelle qu'au jardin. mais cela ira.
Oui, du coup, il y a quand même une chose que je ne comprends pas.
Quoi donc ?
Eh bien, c'est qu'un homme comme lui n'ait jamais pensé à devenir prêtre. Imaginez tout le bien qu'il pourrait faire.
Je doute qu'il accepte le sacerdoce. Pensez-vous, il souhaite tellement garder la dernière place ?
Je sais, mais j'en ai parlé longuement avec notre mère abbesse du couvent de Jérusalem. Elle l'a convoqué. Elle est en ce moment même en grande conversation avec lui. J'espère qu'elle saura trouver les mots. Arrive alors la mère abbesse. Tiens, la voilà, justement. Alors, ma mère ?
C'est fait, je lui ai tout dit, mais je suis épuisée. Cet homme est tout d'un bloc. C'est soit un grand fou, soit un grand saint.
Les deux Clarisses s'emballent un peu.
Il entend l'appel de Dieu, mais il croit qu'il n'est pas digne, c'est cela ?
Enfin, s'il veut tant ressembler au Christ, il n'a plus qu'à célébrer la messe et donner les sacrements.
A-t-il compris que, même prêtre, il pourra continuer de servir les affamés et les pauvres en vivant avec eux, comme eux ?
En faisant venir Jésus sur l'autel à des endroits où il n'est jamais allé.
Oui, mais restez calme. Oui, il a compris que Jésus ne peut être en un lieu sans rayonner.
Dans ce cas, et si c'est la volonté de Dieu, je sais où il partira.
Où ça ?
Ce sera en Afrique du Nord, parmi les peuplades du Sahara. Une partie de son cœur est restée là-bas. Pendant que le rideau se ferme, on entend les commentaires d'Antoine.
Ouf, j'ai eu peur. À peine 2 ans d'armée et finir en jardinier pour bonne sœur habillée en guenille. Je le sentais de mal, très mal, ton prince du désert.
Tu sais, il faut plus que quelques acrobaties militaires pour faire un prince. Et bien plus que du sable et du soleil pour faire un authentique désert.
Scène 6, serviteur de Jésus. Charles est en bure blanche, marquée du Sacré-Cœur. 2 esclaves l'entourent et mangent dans une gamelle. Charles les sert. On devine au loin une chapelle avec un ostensoir.
Merci, Abuna. Ton cœur est bon et Dieu te protège.
C'est Jésus que tu dois remercier, car c'est lui qui me le demande. En me voyant, on doit se dire, puisque cet homme est si bon, combien ce Dieu doit être bon.
Il regagne son bureau et se met à écrire. Les esclaves le regardent.
Kula, Marati, Namiltu, Maza. Ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Dès que j'aurai fini de traduire l'évangile, ce sera plus facile pour vous tous.
Mais tu as déjà écrit tous ces livres-là, sur ton bureau. C'est ça l'évangile ?
Ah non, ça, c'est une grammaire touareg. Et là, 2 dictionnaires. Cela représente beaucoup de nuits de travail.
Tu ne dors jamais, tu ne manges presque jamais. C'est l'objet blanc de ta chapelle, là-bas, qui t'empêche de te coucher et de te nourrir. Je t'ai vu, tu passes des heures devant.
Non, l'objet blanc, comme tu le dis, est mon Dieu. Il se cache un peu, mais il est là. Pour de vrai, je ne peux pas le laisser seul. Tu sais, c'est la première fois qu'il vient à Tamandracet.
Les soldats de ton armée, ils sont là !
C'est sûrement une petite visite de courtoisie. N'ayez pas peur !
Entre un officier des compagnies sahariennes en grande tenue.
Dommage que mon clairon ait sonné avant d'arriver. Je voulais te faire la surprise.
La Péril, mon vieil ami, quelle joie !
Nous sommes en patrouille dans le plateau du Hogar. Je me suis dit qu'un crochet par Tamandracet s'imposait. On ne cesse de me parler du marabout chrétien.
Tu as bien fait ! Et le marabout, le voilà !
Oui, dis donc, tu n'as pas grossi. Et ces rides qui se creusent sur ton visage, c'est une vieillesse prématurée ou des nuits sans sommeil ?
Peut-être un peu des deux.
Sois raisonnable, je t'en prie. Je suis sûr que tu te lèves à 4h tous les matins, hein ?
Non, 3h30.
Et voilà, c'est exactement toi. Excessif, tu es excessif. Je t'ai toujours connu comme ça. Pense quand même à te ménager un peu.
Oui, mais si je ne prie pas dans la nuit, après, c'est impossible. Ici, c'est un défilé incessant de pauvres, de malades. Certains me demandent même comment cultiver la terre. Que veux-tu ? Je préfère qu'ils apprennent à faire pousser l'orge au lieu d'aller piller leurs voisins.
C'est extraordinaire ! Ce que tu fais ici, parmi ces nomades, est irremplaçable. À toi, tout seul, tu remplaces 2 à 3 compagnies de mes soldats. Mais quel est donc ton secret ?
Je les amène à moi doucement par la voie du cœur. Elle est plus sûre et bien plus durable que tous tes fusils.
Tu as sûrement raison. En attendant, on ne se précipite pas beaucoup chez toi pour te demander le baptême. Drôle de paroissien.
Là n'est pas la question. Le temps de Dieu n'est pas celui des hommes. Tu sais, moi, je prépare l'arrivée des missionnaires en adorant Jésus. Ce qui me manque cruellement, ce sont des disciples prêts à partager ma règle de vie. Des hommes portant, comme moi, le résumé de notre foi chrétienne. Le cœur et la croix.
Évidemment, Avec des levées à 3h30 tous les matins, ne t'inquiète pas. Demain, ou plus tard encore, d'autres hommes, peut-être même des femmes, souhaiteront reprendre ton idéal de vie.
C'est mon plus grand désir.
Je te le souhaite de tout cœur. Bien, je te quitte car nous avons encore quelques bonnes heures de marche avant notre bivouac du soir. Veux-tu que j'emmène avec moi quelque chose ?
Oui, c'est l'être pour la France. Merci de tout cœur. Adieu.
Adieu, Charles.
Il se quitte. Les esclaves s'endorment sur le sol. Charles regagne sa table et entreprend d'écrire une lettre à sa cousine.
Chère Marie, ma cousine chérie, continue au Sahara la vie cachée de Jésus, à Nazareth, non pour prêcher, mais pour vivre dans la solitude, la pauvreté, l'humble et l'abject travail des mains. Voilà ce que je désire de toute mon âme.
Il se relève, mais éreinté et pris de vertige. Il s'effondre. L'un des esclaves se réveille et appelle à l'aide. On accourt. Un Touareg se penche, lui donne à boire.
Il est mort ?
Non, il respire encore. Passe-moi le lait de chèvre. Il faut qu'il boive.
Qu'est-ce que vous faites ? C'est un infidèle et un colon étranger.
Ces sales païens ne viennent que pour nous piller. As-tu oublié nos frères qu'ils ont tués à Tikrit ?
Laisse-le crever, ce chien. C'est tout ce qu'il a mérité.
Non, l'an dernier, il a sauvé la famille de Youssouf de la famine en apportant ses propres vivres. On ne va pas le laisser comme ça.
C'est vrai que nous lui devons bien ça.
Allez toi, aide-moi, on va le mettre sur la paillasse.
Ils emportent Charles. Scène 7, l'offrande. Les Touaregs, assis, sont en pleine discussion. Inquiétude de tous.
Cette guerre entre Roumis s'étend à notre continent. Le désert est agité. Il y a encore des pillards venant de Libye attaquer notre caravane.
Comment allons-nous protéger nos familles, si même le désert n'est plus sûr ?
Et nos troupeaux, nos vivres ?
Charles de Foucault les rejoint.
Je vous accueillerai dans mon fortin. Il vous servira d'abri lors des razzias.
Tu es fou. C'est pour nous parquer comme du bétail. Nous sommes des hommes libres.
Crois-tu que nous t'ayons entendu pour nous défendre ?
Charles sort, découragé, et se dirige vers le fort. Il empile des pierres pour faire un mur, puis, entendant des coups de feu, il se réfugie à l'intérieur.
Pourquoi ne viennent-ils pas ? Ils seraient en sécurité, ici.
Il tombe à genoux.
Seigneur, j'ignore ce que je dois faire. Je sais seulement que l'anéantissement est le moyen le plus puissant pour vous ressembler et faire du bien aux âmes. Si vous m'estimiez digne de cette mission, c'est avec joie que je me tiens prêt à vous obéir.
Un homme s'approche du fortin et appelle à l'aide avec insistance. Foucault, à peine sorti, il le tire jusqu'à lui et le maintient. Des hommes surgissent de tous côtés. Ils entrent dans le fort et se mettent à le piller, tandis que deux d'entre eux ligotent Charles et le traînent à terre. Un coup de feu éclate. Un homme posté en guetteur lance l'alarme. Le chef bat le rappel et tous s'apprêtent à fuir. Des échanges de tirs se font. Charles tombe à terre. Les voleurs disparaissent.
Et voilà, une fin misérable. Dans une nuit glauque. C'était un vendredi de décembre, le premier vendredi du mois, jour consacré au Sacré-Cœur. Ainsi est né au ciel le vicomte Charles-Eugène de Foucault, sous-lieutenant du 4e régiment de chasseurs d'Afrique, géographe et trappiste, linguiste, ermite, prêtre. Celui que l'armée française avait renvoyé des années auparavant pour indiscipline doublée d'inconduite notoire, le dernier prince du désert. Tenez, en fouillant ses affaires, on a retrouvé cette pensée intime qu'il avait couchée par écrit. Laissez-moi vous la lire. Pense que tu dois mourir martyr, dépouillé de tout, étendu à terre, nu, méconnaissable, couvert de sang et de blessures, violemment et douloureusement tué, et désire que ce soit aujourd'hui. Considère que c'est à cette mort que doit aboutir toute ta vie.
Mon père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout.